Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. La communauté des Kurdes est répartie entre quatre pays, en Turquie surtout, mais aussi en Irak, en Syrie et en Iran. Le combat des Kurdes pour une meilleure reconnaissance de leur identité, leur espoir de retrouver un pays autonome provoque, en Turquie notamment, un affrontement violent avec les autorités. La Russie, quant à elle, est un allié historique des Kurdes et ménage leur présence sur l'échiquier syrien. Alors, le rapprochement entre la Russie et la Turquie se fait-il aux dépens des Kurdes? On va en parler avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Kendall Nezan est le président de l'Institut kurde de Paris. Bonsoir à vous, Kendall Nezan.
Bonsoir.
Et Caroline Galactero, c'est géopolitologue, spécialiste des questions internationales et de défense. Vous êtes directrice du cabinet d'intelligence stratégique qui s'appelle Planeting. Bonsoir à vous, Caroline Galactero.
Bonsoir.
Alors, la Russie, alliée militaire désormais de la Turquie, est-ce que cela veut dire, je m'adresse peut-être à vous d'abord, Caroline Galactero, est-ce que ça veut dire que Moscou va prendre ses distances vis-à-vis des Kurdes, voire participer à des actions militaires contre eux?
Écoutez, moi ce qui me semble à ce stade de plus en plus clair, on peut le déplorer sans doute, mais c'est ainsi que la situation évolue, c'est que l'accord que certains trouvent spectaculaire, que moi je trouve assez habile de la part de la Turquie, le rapprochement russo-turc se fait clairement quand même au détriment des Kurdes, syriens en tout cas, la question c'est jusqu'à quel point.
C'est la question.
La question, c'est jusqu'à quel point. Alors, il y a plusieurs dossiers. Il y a le dossier récent de la prise d'Al-Bab, où là, on a bien vu que la Russie a appuyé aériennement des opérations turques. Donc ça, c'est sans ambages. Et quand on sait que, bien sûr, la Russie, elle, a l'ennemi kurde en ligne de mire permanente, en Turquie, et bien sûr... La Turquie a l'ennemi kurde, pardon, en ligne de mire permanente, que ce soit en Irak ou en Syrie. Il va y avoir ce que j'appelle, moi, la course vers Raqqa. Qui va reprendre Raqqa? Il va y avoir aussi celle vers Manbij. Qui, là, est encore aux Kurdes, mais Erdogan a juré de reprendre Manbij. Donc il faut comprendre, en fait moi je vois la situation, pour être simple, pour parler globalement, je pense que le vrai problème c'est que le sort des Kurdes, en tout cas en Syrie, est malheureusement quelque chose qui les dépasse largement, parce que ça dépend d'un équilibre qui les surplombe et qui est celui du rapport de force russo-américain, avec la Turquie au milieu, qui joue très très bien sur les deux tableaux. Elle demande aux Américains de cesser leur soutien aux Kurdes syriens à certains endroits. Elle fait accord avec les Russes pour les gêner à d'autres. Bref, elle joue très très bien de sa capacité de nuisance et du fait que les Américains veulent encore la retenir d'une manière ou d'une autre près d'eux. Alors quand dans le même temps, elle se rapproche de Moscou. Donc quand on dit le rapprochement même russo-turc, oui, mais il se fait aussi très largement par rapport à l'Amérique. Beaucoup plus largement qu'on ne le pense. Mmh. C'est pas simplement un revirement, une bascule claire et nette. Pas du tout.
Acteur incontournable.
Pas du tout.
L'Américain, voilà, dans cette affaire. Les Russes entretiennent des bonnes relations avec les Kurdes. Et cela depuis longtemps, non? Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils deviennent ennemis, Kendall Nezan?
Je voudrais d'abord situer le débat, si vous voulez, ce que représentent les Kurdes en Syrie. La Turquie a une frontière de plus de 800 kilomètres avec la Syrie. Et cette frontière-là, à l'exception de ce qu'on appelle le Sanjak d'Alexandrie, de la province d'Antioche, est peuplée du côté turc par des Kurdes. Il y a ça et là quelques poches de peuplement arabe, mais tout le reste, c'est le kurde. Côté syrien, la frontière a été tracée par la France à l'époque du mandat, en 1921, et on a choisi une ligne de chemin de fer, c'est la fameuse ligne de Bagdad-Bam, qui a divisé le territoire kurde, ottoman de l'époque, et donc les Kurdes sont dans trois poches de peuplement.
D'accord.
L'objectif de Kurdes syriens, c'est de créer, enfin ils ont créé des cantons, c'est de faire leur jonction en trouvant un compromis entre les populations arabes qui sont entre ces deux cantons-là. Et l'objectif prioritaire de la Turquie, c'est d'empêcher cette jonction pour qu'il n'y ait pas une zone autonome ou une région autonome du Kurdistan.
Mais les Russes y étaient plutôt favorables, non ?
Alors, les Russes y étaient favorables. Il était favorable parce que même maintenant, dans la stratégie russe, la Syrie doit être un État décentralisé. Si on n'arrive pas à avoir une région sunnite dirigée par des sunnites, une région alawite dirigée par les alawites, une région kurde dirigée par, par les Kurdes, la Syrie ne sera jamais stable. Et la Russie a intérêt à ce qu'il y ait une Syrie stable en tant qu'allié, puisque ça, c'était leur vision. Maintenant, cette vision se heurte à la vision de la Syrie, de la Turquie et de l'Iran. Il y a trois États qui, pour des raisons différentes, sont opposés à la décentralisation et à toute autonomie kurde. L'Iran, parce qu'il y a 12 millions de Kurdes en Iran et que ça va leur donner des idées, et parce que les Kurdes ne sont pas chiites. La Syrie, parce que le gouvernement rêve encore d'avoir un État centralisé. Et la Turquie, parce qu'il y a déjà un Kurdistan irakien quasi indépendant, avoir une région autonome kurde en Syrie, ça va évidemment avoir un impact énorme sur les 15 à 18 millions, 20 millions de Kurdes de Turquie. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils sont opposés. Les Américains n'ont pas d'opinion sur la question de la décentralisation du fédéralisme. Et on va voir dans ce jeu-là, donc, si les Kurdes de Syrie vont être une variable d'ajustement du rapprochement entre la Turquie et la Russie. Et ce rapprochement est beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit. Donc, Poutine est en train de manœuvrer Erdogan, de le retourner. Si on arrive à retourner un allié de l'OTAN très important dans la région, ça sera un succès diplomatique considérable. S'il y arrive, évidemment, il serait prêt à sacrifier les Kurdes.
Caroline Galactéo.
Oui, le terme variable d'ajustement est effectivement, me semble, assez juste. Effectivement, Vladimir Poutine essaie de retourner la Turquie, même si la Turquie joue aussi son double jeu. Donc, il la retourne, mais il lui conserve aussi son intérêt du point de vue américain. C'est ça qui est très intéressant.
Est-ce que l'alliance avec les Russes va obliger M. Erdogan, par exemple, à adoucir sa position vis-à-vis des Kurdes ?
Pourquoi pas, éventuellement, localement, s'il obtient autre chose à un autre endroit ? C'est-à-dire que, de toute façon, la situation militaire telle qu'elle est, très intriquée maintenant, avec des forces, il y a plusieurs points d'action, ne serait-ce qu'en Syrie, sur lesquels il y a des coalitions différentes qui se lancent. Finalement, tout va dépendre. Si moi, je crois qu'à la fin, il y aura des zones d'influence, effectivement, qu'il y aura une structure. Alors peut-être une structure unitaire de l'État syrien, mais avec une décentralisation de fait. Et la question, finalement, d'un point de vue froid, c'est qu'est-ce qu'on donne aux uns et aux autres pour qu'ils acceptent de se cantonner dans telle et telle région. Voilà. Alors, l'opération turque bouclier de l'Euphrate, c'est effectivement pour empêcher cette jonction des trois grandes zones kurdes en Syrie. Et si jamais on arrive à repousser, si jamais Erdogan arrive à repousser, notamment avec Manbij, les Kurdes de l'autre côté de l'Euphrate, là, ce sera quand même un signe assez net d'un reflux de l'influence kurde en Syrie.
Alors, ça fait deux fois que vous mentionnez Manbij, j'aurais peut-être s'arrêter quelques minutes sur le... Parce que on parle des combats qui se sont passés à Al-Bab, qui étaient aux mains de Daesh, on est d'accord, reprise par l'armée turque, aidée par les Russes, on est encore d'accord. La prochaine étape, donc, c'est Manbij sur la route de Raqqa, et le président turc, vous l'avez rappelé, l'a dit, Manbij doit être prise. Et Manbij a été reprise d'ailleurs cet été par une alliance qui était dominée par les Kurdes. Alors, est-ce que l'armée turque va aller combattre les Kurdes à Manbij? C'est une des questions. Est-ce qu'ils sont encore d'abord à Manbij? Parce qu'on leur a demandé de partir.
Manbij a été reprise à l'État islamique après 4 mois de combats très très meurtriers. Il y a eu autour de 1500 combattants kurdes qui ont été tués. C'est une guerre très très meurtrière. Et donc, Manbij est contrôlée par les forces démocratiques syriennes, parce que ce n'est pas une ville kurde où il y a une minorité kurde, mais en fait, ce sont une majorité arabe. Donc, parmi eux, j'imagine qu'il y a aussi des Kurdes. Mais c'est une coalition, et la Turquie voudrait contrôler cette ville-là. La politique de la Turquie, là, les Américains et les Alliés s'en sont rendus compte. Au départ, on disait on ne peut pas contrôler les frontières. Et en 2014, en octobre 2014, quand il y a eu cette guerre dans la ville kurde de Kobané et que la Turquie laissait sa frontière ouverte aux combattants de Daesh, mais n'aidait pas les Kurdes, les Américains et les Alliés se sont rendus compte que non seulement les Turcs jouaient double jeu, mais en même temps, ils préféraient avoir un État islamique à leurs frontières que des forces anti-Daesh comme le combattant kurde. Mmh. C'est là qu'il y a eu un tournant dans ce conflit-là. Et à Manbij, c'est la même chose. La Turquie voudrait contrôler Manbij et Al-Bab pour totalement couper les zones kurdes. Et ça, effectivement, ça sera décidé. On verra la politique américaine.
Oui.
Avec Donald Trump. Parce que jusqu'à maintenant, les Américains n'ont pas donné suite aux demandes turques, parce qu'ils connaissent maintenant le jeu turc et ils continuent de soutenir le combattant kurde parce que c'est la seule façon de pouvoir conquérir éventuellement Raqqa.
Vous êtes d'accord avec cette analyse double jeu des Turcs, Caroline Galateros?
Oui, double, triple, quadruple, enfin oui, sur...
C'est-à-dire les Turcs préfèrent Daesh à leur porte que, que les Kurdes.
Mais c'est la question de l'ennemi premier, de l'ennemi second, de l'ennemi... oui, bien sûr, c'est toujours chacun à cette hiérarchie plus ou moins sombre des priorités, et parfois vraiment triste, mais enfin c'est ainsi. Oui, il y a des... En fait, chaque acteur a des doubles jeux. Personne n'a un jeu clair, net, cohérent, conséquent. La Syrie, c'est vraiment le cas d'école de l'incohérence stratégique. Hein. C'est vraiment là.
Mais alors, tout le monde a l'air de ménager finalement les Kurdes, sauf la Turquie, bien évidemment. On est d'accord sur ce point, la Turquie d'Erdogan en tout cas. Pourquoi les Kurdes sont-ils si importants sur l'échiquier de la région?
Écoutez, je crois que c'est déjà le grand penseur Ibn Khaldun qui, il y a des siècles, disait que l'histoire est faite par les gens qui viennent de faubourg de l'histoire. Les Kurdes ont été, pendant tout le XXe siècle, les victimes du partage du Proche-Orient. Donc ils ont appris à s'organiser, à lutter, à résister, à tenir. Et effectivement, en Syrie, les pays occidentaux n'ont pas d'autres alliés fiables que les Kurdes pour combattre Daesh. Mmh. Tout le monde en parle du combat contre Daesh, mais les seuls qui se battent véritablement, et ça, c'est l'expérience du terrain, c'est la raison pour laquelle la coalition internationale soutient les Kurdes d'Irak, ils sont incontournables. On parle beaucoup d'autres forces de l'opposition, mais les seuls qui défendent les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire les valeurs de l'égalité des sexes, de laïcité, de pluralisme, etc., sont les Kurdes. Donc, ils sont 40-45 000 combattants, ils se battent bien, ils sont motivés. À côté de ça, vous avez une coalition des forces qui sont plus ou moins islamistes, salafistes, et puis djihadistes. Donc il n'y a pas tellement de choix. Hein,
C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point justement où l'incohérence est devenue difficilement vivable et où la Russie finalement a mis le doigt sur ces incohérences. Et donc, effectivement, les Kurdes se battaient contre Daesh et nous, l'Occident, la coalition occidentale, on favorisait quand même de facto un certain nombre de groupes islamistes radicaux, parce qu'en fait l'objectif, et c'est ça qu'on semble oublier, on semble glisser doucement, mais l'objectif initial occidental était quand même la déstabilisation du régime syrien. Donc là, on a bougé, parce que le rapport de force a bougé, parce que la Russie est entrée dans le jeu, parce qu'elle le domine, parce que maintenant elle contrôle en grande partie, et même au-delà, bien au-delà de la Syrie, puisque maintenant il y a aussi le volet palestino-israélien. Enfin bref, elle a lancé une immense offensive diplomatique. Donc il y a un état de fait du rapport de force très clair, et donc on est en train de faire comme si subitement, voilà, tout le monde se réalignait vers un ennemi commun. Il y a eu la conférence de Moscou, il y a eu la résolution de l'ONU quand même votée à l'unanimité, qui en reprend finalement les principes. Donc les Américains se sont entre guillemets ralliés à, ils ont fait de nécessité vertu, si j'ose dire, et on en est là. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut maintenant voir que le rôle initial des Kurdes, qui était de se battre courageusement effectivement contre Daesh, mais j'allais dire un peu seul, n'est pas forcément un avantage pour eux dans la situation telle qu'elle est en train de se reconfigurer. C'est-à-dire comme l'accord est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus haut, et comme l'Amérique, et avec l'arrivée de Trump, ça va peut-être encore s'amplifier, ce mouvement. L'Amérique va chercher peut-être une conjonction avec la Russie pour le traitement global de la question syrienne et irakienne. Et moi, je pense qu'il y aura un partage des rôles, des tâches et des succès. Évidemment, c'est là qu'on revient à la question de la variable d'ajustement, et que les Kurdes pourraient être cette variable d'ajustement, quel que soit le courage de leur combat et la réalité de ce qu'ils ont été.
Alors, une des clés du problème, on va dire, c'est la volonté des Kurdes de posséder un État. Retrouver le Kurdistan, ils ont une région semi-autonome, vous l'avez signalé tout à l'heure en Irak, ils voudraient la même chose dans le nord de la Syrie, vous l'avez dit aussi, les Turcs n'en veulent pas, les Russes y étaient favorables, parce qu'on est en fin d'émission et qu'il faut conclure, je me demande si l'aspiration à une nation kurde, un Kurdistan donc, dans quelles circonstances elle serait réaliste, Kendall Nézan.
Ben écoutez, si on était dans un monde juste dirigé par le droit international, le droit de peuple à disposer d'eux-mêmes, on organiserait une consultation, parce que ça fait un siècle que les Kurdes se battent pour maîtriser leur destin, et on respecterait le résultat de la consultation. Pour information, en 2005, j'étais au Kurdistan irakien, il y a eu une consultation informelle, 98% des gens se sont prononcés en faveur de l'indépendance du Kurdistan irakien. Je pense que s'il y avait un tel référendum en Turquie, le résultat serait très largement majoritaire aussi. Mais bon, on est dans un monde où il y a le calcul froid de puissance, et qu'une fois qu'on a partagé ce pays, tout le monde ne jure que par le statu quo, et les frontières sont devenues intangibles. Et donc, il faut qu'on fasse avec. Alors, comment on fait avec? Ben, on lutte au moins pour avoir une autonomie régionale, une fédération, et que le Kurde ne soit plus perçu comme un facteur de division, de querelle, de guerre, mais un trait d'union entre tout ce peuple-là, entre les Arabes, les Turcs et les Persans, entre le monde sunnite et le monde chiite, et un îlot aussi de défense de valeurs que l'Occident ne défend pas assez, c'est-à-dire les valeurs démocratiques.
Et ce sera d'autant plus difficile qu'il y a une réunion à Astana qui doit essayer de régler la problématique, et que le parti de l'Union démocratique, qui représente une partie en tout cas des Kurdes, n'y sera pas, Caroline Galekteros.
Oui, mais la réunion d'Astana, justement, là, c'est la sanction du réel, c'est-à-dire ce sont les Russes, les Kurdes et les Iraniens qui, donc, pour des raisons différentes, ont tous intérêt à ce que l'aspiration kurde à un État n'aboutisse pas. Je parle pas des Russes, mais en tout cas, les Iraniens et les Syriens, c'est assez clair. C'est la suite de la conférence de Moscou, donc c'est le prochain round. Mais le cessez-le-feu est quand même fluctuant, parce que forcément, comme on en a exclu ce qui me semble logique sur le fond, mais difficile sur la forme, on en a exclu Al-Nosra et consorts, et bien sûr Daesh, forcément personne, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas envie que le cessez-le-feu tienne et que cette conférence se tienne. Mais je pense que ça devrait quand même arriver. Donc il va se décider quelque chose. Voilà.
Mais les Kurdes n'y seront pas.
Non, les Kurdes n'y seront pas.
On suivra l'évolution de la situation. On ne peut pas en dire plus, malheureusement. Merci à tous les deux, Kendall Nézan, président de l'Institut kurde de Paris, et Caroline Galekteros, géopolitologue, directrice de ce cabinet d'intelligence stratégique qui s'appelle Planeting. Merci également à Eleanor Krenik qui a préparé cette émission, et à Fabrice Viollet qui l'a réalisée. Vous nous retrouvez sur Internet pour réécouter les débats, bien sûr. Le prochain, c'est lundi avec Anne Souhaitemont et ses invités. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur Radio France International dans quelques secondes.